thing I remember saying bye to yesterday. Glad to see it over, pulling covers over my head. What were you doing while I dreamt the night away? 'Cause I can tell that something's different and my eyes ain't even open yet. I'm smelling coffee, birds are singing just outside. Here comes your mercy, streaming in with the morning light. My heart's racing, waking up to your smile and say, good morning. Good morning. I remember reading, you're the God who never sleeps. While I've been dreaming, you've been singing over me. Yeah, singing about my freedom, waking me up to hear your song. Now I can't dance hard enough, 'cause yesterday is gone, gone, gone. I'm smelling coffee, birds are singing just outside. Your mercy streaming in with the morning light. My heart's racing, waking up to your smile. Say, good morning. Yeah, yeah, yeah. Good morning.
Cause I know you never stop watching over me. I wake up, my past is gone. 'Cause your mercy's new with the morning sun. I'm forgiven, I'm free. It's a brand new day. 'Cause your faithfulness is the greatest.
Hey, I'm smelling coffee. Birds are singing just outside. Here comes your mercy, streaming in with the morning light. My heart's racing, waking up to your smile. I'm smelling coffee. Birds are singing just outside. Here comes your mercy, streaming in with the morning light. My heart's racing, waking up to your smile and say, good morning. Yeah, yeah, yeah.
Bonjour, bienvenue à chacun, bienvenue à vous qui avez fait le déplacement ce matin, bienvenue à vous qui nous suivez depuis votre téléphone portable ou bien tablette, peu importe, que ce soit en direct ou pas. Smelling Coffee, c'est une chanson de Chris Rice, un chanteur américain que j'apprécie beaucoup. L'odeur du café, une nouvelle journée avec le sourire de Dieu pour nous accueillir. Dieu qui travaille nos cœurs même durant la nuit. Moi j'aime bien cette idée. J'aime bien cette sensation aussi certains matins de pouvoir commencer une nouvelle journée sous la grâce de Dieu. D'avoir le sentiment que la page est tournée. Alors que vous soyez en vacances, que vous soyez en paix, que vous soyez fatigué, que vous soyez à bout, que vous soyez dans la joie, dans la souffrance, Dieu nous accueille ce matin. Il nous accueille maintenant, il vous accueille tel que vous êtes, et il veut nous rejoindre, il veut vous rejoindre et prendre le temps avec nous. Il veut prendre ce temps de culte avec nous, alors que nous puissions le prendre sous sa grâce. Le Seigneur, oui, se réjouit. Il se réjouit de nous voir rassemblés, malgré tout. Rassemblés ici, en son nom, dans ce lieu, ou virtuellement en direct, virtuellement en visionnant l'enregistrement. Nous, ensemble, nous formons son Église, nous formons son corps. Nous, nous sommes image de Dieu, nous sommes ses représentants. Et même si le culte, ce n'est pas l'ensemble, ce n'est qu'un aspect de notre vie chrétienne, même si nous ne sommes pas parfaits, Dieu se réjouit. Et Dieu y fait avec nous. Et il construit avec notre humanité. Alors je vous invite à prier. Et vous pouvez prier avec moi, mais vous pouvez aussi laisser un peu de place à Dieu dans le silence, car il est là pour vivre ce temps avec nous. Seigneur Dieu, merci. Merci parce que tu veilles sur nous le jour, tu veilles sur nous la nuit. Merci parce qu'avec toi, on peut laisser notre passé en arrière sans le renier, mais parce que tu nous permets d'aller de l'avant. Tu nous invites à vivre notre aujourd'hui, notre présent. Et merci parce que tu nous promets aussi un avenir, ici et maintenant, mais aussi avec toi, dans ton royaume. Alors Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, que tu travailles nos esprits, que tu renouvelles nos forces, que tu changes nos pensées, et que tu bénisses ce temps que nous passons ensemble avec toi. Nous voulons également bénir ton nom. Nous voulons te louer, t'adorer. Et nous voulons te dire que nous voulons nous mettre à ton service et être tes témoins. Alors conduis-nous, nous qui sommes ici ce matin, où qu'on soit, et que tu accompagnes aussi les enfants ou les potes qui sont peut-être à l'extérieur. Amen. Alors, je ne sais pas exactement pour vous, mais pour moi, en tout cas, ce n'est pas évident de retrouver un équilibre, des repères, des habitudes, un certain confort, une routine. Des fois, une routine, c'est confortable. Depuis le début de la pandémie, depuis toutes ses conséquences et tout ça. Et c'est peut-être une bonne chose, parce qu'il y a toute une réflexion, une remise en question à avoir. Par contre, ce n'est pas toujours facile, et ça peut même être éprouvant. À quelque niveau que ce soit, de l'organisation des cultes ici, à l'organisation du travail, en passant par les loisirs, les vacances, et puis la vie de famille. Et puis surtout, il reste des doutes. Il reste des questions. Comment est-ce qu'on va s'adapter? Qu'est-ce qui va rester? Est-ce qu'on va revenir à ce qu'on vivait avant? Puis qu'est-ce qui sera bénéfique? Combien de temps avant de revenir à la « normale » entre guillemets? Et puis du coup, ça ouvre d'autres questions sur qu'est-ce qui est normal? Alors, c'est une bonne occasion de se poser des questions, de se poser ces questions. On n'a pas tout à fait le choix non plus. De remettre certaines choses en question dans nos organisations personnelles, dans nos organisations de la société. Les questions liées au partage des richesses, au climat, à la conservation de la terre et de ses ressources. C'est de plus en plus d'actualité. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va justement revenir au point où on en était il y a quelques mois? Certains disent, ben ouais, ce ne sera plus jamais pareil. Mais du coup, on en revient presque à envier ce qu'on avait avant. Et puis si c'est plus pareil, est-ce que ce sera en pire ou est-ce que ce sera en mieux? Il faudra de toute façon faire avec. Dans le monde d'après, il y a parfois une tension, un décalage entre nos attentes, nos espérances, et puis certaines réalités qui font que ben, c'est difficile de changer. Alors on évoquera un petit peu cette thématique tout à l'heure avec la prédication. Mais pourtant, Dieu, lui, ne change pas. Et son pardon, ses promesses, sa parole restent. Alors on va commencer avec deux chants pour se rappeler ça et le chanter ensemble. Donc c'est pas un temps de louange, mais on peut vivre ce temps quand même en chantonnant. Je laisse la parole à Mathieu. Merci.
Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut. Comme l'a dit Joël, je ne vais pas vous inviter à vous lever et à chanter tout votre cœur. Du coup, pensez de tout votre cœur, fredonnez de tout votre cœur dans votre barbe, de votre absence de barbe. Pour ce matin, j'avais envie de, faute de Sainte-Seine, de nous rappeler, comme l'a dit Joël, que Dieu ne change pas et que son sacrifice ne change pas. Je vous invite à chanter attaché à la croix, à fredonner attaché à la croix pour moi avec nous.
Sacrifié pour moi et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme poids, attaché à la croix pour moi, attaché. Céleste pour le plan rédempteur de Dieu, l'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché. Il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Malgré tes innocents pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour mes frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi.
Merci parce qu'on peut se retrouver malgré les circonstances. Merci pour qui tu es. Parce que même si on doit uniquement le fredonner, on chantera gloire jusqu'à ton retour, Seigneur. On veut te rendre gloire. Amen.
Bonjour, bonjour à chacun. Et bonjour spécialement à certains qui viennent, qui n'ont pas eu l'occasion de revenir ici depuis quelque temps. Je vois quelques visages, voilà. On a une fin d'année scolaire hein, particulière. Il y a des vacances qui sont tombées à l'eau pour pas mal de gens. On a une situation qui est incertaine, qui est source d'inquiétude et même assez angoissante pour certains. On a aussi des gens qui ont l'impression que finalement on en a fait beaucoup trop, que c'est pas si grave que ça et qu'on aurait mieux fait de laisser faire la nature. Voilà, il y a toute cette panel de réactions qui existe dans notre société et parmi nous aussi. Mais comme l'a dit Joël tout à l'heure, ça induit un questionnement. Et ça, en tout cas, c'est certainement une très bonne chose. Alors, le texte que j'ai pris pour la méditation de ce matin, c'est le texte bien connu des Béatitudes. D'abord parce que c'était le thème qui avait été choisi en commun par les pasteurs de la région de l'Église protestante de Genève, auquel Philippe Anchaud participe, et qui était prévu pour des cultes de l'été, qu'on n'a pas pu faire cette année, bien à regret. Alors c'est vrai que certains avaient parfois de la peine à s'y retrouver dans le style un peu différent de ces cultes, mais en même temps c'est un enrichissement assez extraordinaire. Et j'ai pensé bien de prendre ce thème, même si on ne pouvait pas le parcourir comme les autres années, tous ensemble. Ces béatitudes, elles inaugurent dans l'évangile selon Matthieu, pardon, un texte qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Et ce Sermon sur la montagne, c'est un des textes les plus connus de la Bible. En fait, c'est un texte qui a un impact assez loin, même en dehors du christianisme. Il m'est arrivé de lire une fois un livre écrit par je ne sais plus quel philosophe ou religieux asiatique qui n'avait rien à voir avec le christianisme et qui était très inspiré par cet enseignement de Jésus. Et même pour la petite anecdote, hein, Donald Trump, quand on l'a un jour interrogé pour savoir s'il se souvenait de versets de la Bible, ce qu'il a cité, c'est « œil pour œil et dent pour dent ». Ok, alors bon, c'est bien dans le Sermon sur la montagne, sauf que Jésus ajoute « mais moi je vous dis de renoncer à la vengeance et que si quelqu'un vous frappe sur la joue, tendez l'autre ». Et l'expression qui est restée dans le langage courant de tendre l'autre joue, c'est une de ces expressions qui vient de cet enseignement de Jésus. Alors, il me semble qu'il est bon de revenir à cette source. On a parlé de l'essentiel tout à l'heure. Je crois que cet enseignement de Jésus nous ramène à ce qui est essentiel pour nous inspirer justement dans ces réflexions qu'on a aujourd'hui sur un monde d'après. Ces derniers temps, il m'est aussi arrivé de vivre quelque chose d'un peu difficile sur le plan relationnel. Et finalement, c'est aussi en retournant dans cet enseignement de Jésus que voilà, je peux retrouver une inspiration pour retourner à l'intérieur, hein, voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, je vous propose de lire d'abord dans une version plus traditionnelle ce texte. C'est Joël qui va le lire.
Donc c'est dans la Nouvelle Bible Second. Matthieu 5, les versets 1 à 12. Voyant les foules, il monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obéiront et ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
Jésus en est là au début de son ministère. Il enseigne, il guérit des gens. C'est là au bord de Galilée, assez loin de Jérusalem, assez loin au nord de Jérusalem, qui était le centre de la vie religieuse juive. Et dans un territoire qui est habité par des non-juifs. C'est là que Jésus commence son ministère et qu'il appelle les disciples. Et à cette époque, le peuple d'Israël vit un rêve et une attente. C'est un peuple qui a passé par la déportation, par l'exil, qui est revenu dans son pays, mais ils n'ont jamais retrouvé leur autonomie complète. Et voilà que maintenant ils sont sous tutelle, ils sont dans un pays occupé. Les gens de la génération d'avant moi, ils ont vécu l'occupation en France. Et puis ils attendent. Ils attendent un Messie qui viendrait les délivrer des Romains. Mais en fait, leur rêve, c'est de revenir à un royaume autonome avec une religion centrée à Jérusalem. Et puis, à ce moment-là, il y a des gens qui s'arrangent bien avec les Romains. Hein, c'est les collabos, les collaborateurs. Il y en a même qui en profitent. Hein, il y a des collecteurs d'impôts qui vivent très bien de cette situation. Et puis, il y a d'autres gens qui prônent une révolte armée. Il y a tout ça dans la société. Et il y a même ça dans les disciples. Hein, parce qu'il y avait un collecteur d'impôts et puis quelqu'un qui était aussi un de ces gens qui étaient pour la révolte armée. Alors Jésus, il proclame une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume, dit-il, et guérit des malades. Mais de quel royaume s'agit-il? Alors il parle, dans Matthieu, c'est dit le royaume des cieux. Alors ici, les cieux, c'est un euphémisme pour ne pas utiliser le mot Dieu, parce que pour les juifs, ils utilisent un nom pour Dieu qui est le nom imprononçable. Donc on dit le royaume des cieux. C'est une manière de parler du royaume de Dieu. Mais ce royaume, qu'est-ce que c'est? C'est pas un espace clos avec un roi au milieu qui serait un dominateur terrestre. Il s'agit d'un règne qui part de l'intérieur des personnes, de notre intérieur, du cœur. Du cœur où Dieu règne en transformant le cœur des gens, en nous transformant, en transformant les relations humaines. Et une transformation qui se diffuse vers la collectivité, vers la société. C'est le travail du Saint-Esprit dans nos cœurs. Mais ce n'est pas pour autant une spiritualité qui serait... C'est pas pour autant une spiritualité qui serait toute intérieure, car c'est une spiritualité qui impacte une manière de vivre, une manière d'être avec les autres. une manière d'être en société, donc ça concerne aussi bien l'individu que la société. Alors pour les disciples de Jésus, ça a pris très longtemps pour comprendre de quel royaume il s'agissait, parce qu'eux, ils étaient toujours un peu dans ce rêve d'avant, du monde d'avant. Hein. Et c'est, finalement, c'est qu'après la résurrection, qu'ils ont compris comment et pourquoi ce nouveau règne de Dieu passait par la croix de Jésus. Alors pour nous, il me semble que cet enseignement-là, revenir à la source, peut nous éclairer et nous inspirer sur notre questionnement d'aujourd'hui, sur ce monde d'après. Alors j'aimerais partager quelques pensées, mais ça n'a rien de complet, hein, rien d'achevé. Et je pense qu'il y aurait de quoi effectivement faire 8 cultes d'été sur ces béatitudes. Alors, avec ces béatitudes, on a d'abord un contraste. On a une espèce de renversement, quelque chose de très paradoxal. Parce que heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés. Ça ressemble absolument pas à une espèce de petit manuel du genre « Le bonheur pour les nuls » ou bien « Comment être heureux en 10 leçons ». Pas du tout ça. Ça entre d'ailleurs même en contraste avec des textes bibliques. Certains textes qu'on aime bien lire dans nos cultes. Par exemple, le psaume 1. « Heureux celui qui ne suit pas le conseil des méchants, mais qui médite l'enseignement du Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tout ce qu'il fait lui réussit. » Ben, Jésus, il dit quelque chose d'un peu différent. Non. Par ailleurs, André Chouraki, qui aime bien des traductions littérales assez rugueuses, il traduit ces béatitudes par « en marche ». Et ce n'est pas faux, parce que ça souligne un aspect de ce texte, qui est que Jésus vient mettre en route des gens. Il vient mettre en route des gens qui sont pauvres, des gens qui sont tristes, des gens qui sont déprimés, des gens qui sont au bas de l'échelle, qui sont rejetés, qui sont considérés comme des moins de rien. Jésus vient les mettre en route. Il vient relever les gens qui sont abattus. Donc il y a une interpellation et en même temps il y a un encouragement que Dieu donne, que Dieu vient nous donner. À vous qui êtes tristes aujourd'hui, c'est peut-être ça que Dieu vous dit. Ce n'est pas que je suis content que vous soyez tristes, c'est que Dieu vous console. Dieu est là pour vous consoler. Mais pour ce matin, j'aimerais moi voir dans ces heureux quelque chose qui tourne autour des valeurs que Jésus nous propose, les valeurs du royaume des cieux. Dans un sens très fort, hein, parce que les valeurs, dans ce sens fort, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui anime, c'est ce qui détermine un peu nos choix dans la vie, dans nos relations. Comment on gère nos relations et celles qui vont bien et celles qui vont moins bien. Quel est notre style de vie dans notre travail ? Dans nos vacances et nos choix de vacances, tout ça est impacté par ces valeurs. Alors voilà quelques pensées pour essayer de les faire résonner, ces paroles de Jésus, avec nos situations de vie et notre société d'aujourd'hui. Heureux les pauvres en esprit. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire éloge de la stupidité. C'est un appel à une attitude humble. Dans l'ancien français courant, ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui savent reconnaître leurs faiblesses. Je reconnais mes faiblesses, je reconnais que j'ai besoin de Dieu, je reconnais que j'ai besoin des autres. à la latitude à laquelle Jésus nous invite. Et c'est le rappel d'un thème biblique qui est omniprésent
aussi.
Parce que Dieu valorise tous ceux que la société dévalorise et met de côté. Jésus le montre constamment, non seulement dans son enseignement, mais dans ses actes. Et Philippe nous l'a rappelé la semaine dernière, où on voyait Jésus guérir une femme qui était considérée comme impure, donc on devait mettre à part, et il ressuscite le fils d'un centenier, mais le centenier, c'était un de ces gens de l'occupation qui était plutôt détesté. Et l'évangile de Luc dit tout simplement « heureux les pauvres », parce que l'évangéliste Luc met bien en avant tout cet aspect social très pratique de l'évangile. Et les gens avec qui Jésus s'est accroché, avec qui il était en conflit, qui c'était ? C'était les pharisiens, c'est-à-dire c'était les gens de sa propre religion, les maîtres de religion, qui eux se croyaient au-dessus des autres. Eux, ils se croyaient riches en esprit. Ça m'évoque un petit souvenir de quand j'étais peut-être enfant ou encore ado, je ne sais pas, où des fois, à l'école, parce que je ne voulais pas faire telle ou telle chose, on nous traitait de petits saints. Je ne sais pas si ça arrive encore aujourd'hui. Oui ? Puis des fois, je me dis, mais bon, est-ce que c'était une persécution ? Ou bien ce que c'était une réaction parce que ma manière d'être cherchait à me mettre au-dessus des autres, hein, comme si moi j'étais mieux moralement que les autres. Je n'ai pas la réponse, hein, mais c'est des questions qu'on peut se poser dans nos relations avec les autres. Puis j'ai pensé aussi à autre chose. Aujourd'hui, avec l'omniprésence des réseaux sociaux, la philosophie, ça serait plutôt heureux ceux qui ont plus de 500 amis sur Facebook, hein, ou ceux qui ont des milliers de followers sur Instagram. Il y a une espèce de recherche, hein, les influenceurs, les influenceuses, qui me semble être juste à l'opposé de ce que Jésus enseigne. Il y a un piège là derrière, il y a un piège là derrière tout ça. Et le message de Jésus est en contraste et nous fait réfléchir. Alors, qu'est-ce qui est valorisé dans ce royaume des cieux ? Valorisation de ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, comme on a déjà dit. Valorisation de la dépendance. Reconnaissance de notre interdépendance. Je pensais à une chose, on est dans une société où, voilà, où tout le monde doit être autonome. On croit qu'on l'est parce qu'on ne l'est pas du tout, mais voilà. Petit détail, les handicapés, on dit qu'ils doivent pouvoir accéder n'importe où tout seuls. Mais ça serait bien de dire aussi que ça serait normal que chaque fois qu'on voit une personne qui a une difficulté pour marcher, on l'aide. Même s'il y a un escalier à passer. Une société où on se trouve normal de s'aider les uns les autres. Et on a toujours besoin de l'aide de quelqu'un pour une chose ou une autre. Valorisation de chaque personne, et spécialement de ceux qui sont dans l'ombre. Alors celui qui vous parle devant ne vaut rien de plus qu'une personne qui a simplement pas pu venir ou qui est juste venue nettoyer les locaux le vendredi, que personne n'a vu. Celui qui chante n'a pas plus de valeur que celui qui est simplement assis. Chacun a sa valeur. Je pense à un exemple où il m'arrive d'être peut-être quelqu'un qui écrase les autres. J'essaye de suivre l'enseignement de Jésus sur la compassion, la valorisation des gens. Je pense à une chose où je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui a passé quand j'étais prof. Je sais qu'il y a une élève qui s'est trouvée en difficulté pour faire son travail de matu parce qu'elle avait été refusée, et puis, etc. Et puis ben, le doyen il est venu me chercher pour que je puisse la prendre en charge pour reprendre un travail de matu. Bon, ben, je me suis dit là peut-être qu'il y a quelque chose qui a été perçu sur l'attention qu'on peut avoir aux élèves. Voilà, c'est... mais je me présente pas en exemple, hein. Je dis c'est juste pour donner un exemple de comment certaines choses peuvent passer dans là où on est dans sa profession. Et Jésus fait l'éloge de la douceur dans une société où on fait plutôt l'éloge de la force. Il y a aussi en filigrane toute une valorisation de la fragilité qui résonne avec notre situation d'aujourd'hui. Parce qu'on doit réapprendre à accepter nos limites, accepter notre fragilité humaine. Et ça, c'est un rapport quelque part avec ce qui est le péché fondamental selon la Bible, selon la Genèse, c'est de vouloir être comme Dieu, c'est-à-dire un espèce de désir de toute puissance. Et c'est ça, c'est ce désir de toute puissance qui nous amène à cette course folle d'aujourd'hui, course sans limite vers une croissance matérielle qui nous amène dans le mur. On le sait assez bien, mais on a de la peine à prendre vraiment la mesure de ça. Donc on est appelé à accepter nos limites, accepter que la technique n'est pas toute puissante. Je ne dis pas qu'il faut arrêter la recherche scientifique ni le développement technologique. Ils sont bons, ils font partie de ce que Dieu nous a donné, mais notre manière de le faire aujourd'hui est vraiment à questionner. Donc accepter nos limites, c'est aussi mettre des limites dans notre manière de vivre à notre consommation. Je dis peut-être des banalités, mais ça veut dire manger peut-être deux fois moins de viande que ce qu'on fait, parce qu'on en mange beaucoup plus que nos besoins. Ça veut dire limiter nos déplacements. Et puis au niveau de la société tout entière, mais c'est quelque chose qui est très compliqué et qui nécessiterait des développements parce que c'est complexe, limiter la toute-puissance de l'argent. Et là aussi, c'est dans le Sermon sur la montagne que Jésus dit « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, Dieu et Mammon ». Et pour moi, cette parole, c'est pas seulement une incitation à vivre selon l'Évangile comme chrétien, c'est quelque chose qui a un impact sur la société tout entière. Alors tout cela nous induit à un style de vie plus simple, plus solidaire, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la société. Plus de solidarité, plus de justice. Et là aussi, ça sera un thème à développer. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Dieu, dans toute la Bible, c'est un thème absolument majeur, ne supporte pas l'injustice qui écrase des gens. Besoin de plus de solidarité. J'entendais une fois une personne me dire « Mais voilà, on a dépensé tellement d'argent pour ce coronavirus qu'on n'aura plus d'argent pour les retraites, on n'aura plus d'argent pour payer les chômeurs, donc il faut que chacun apprenne à se débrouiller tout seul. » Au contraire, les transformations nécessaires, elles vont créer des emplois, mais elles vont en perdre. Donc il y a forcément des gens qui vont se retrouver au chômage plus qu'avant, et il y en a déjà parmi nous. Donc il faudra plus de solidarité dans la société. Des cœurs purs, là je dis simplement quelques mots, des cœurs purs, c'est juste l'authenticité de notre engagement, de notre service, de notre amour pour le Seigneur. Et des faiseurs de paix, parce que tout ça, on le fait dans le dialogue avec le reste de la société. J'aimerais simplement relire maintenant ces béatitudes, ce texte, en les relisant dans la nouvelle français courant. Et après cette lecture, on aura un instant de silence, puis peut-être que quelqu'un aurait quelque chose à partager. Et on aura aussi un petit... Donc, vous serez libre de le faire. Et peut-être un moment de prière qui sera suivi encore de deux chants. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Voilà, si quelqu'un a quelque chose à partager ou une réaction, voilà, c'est ouvert.
Alors on va poursuivre, et si on, des fois un peu difficile de partager entre nous comme ça, à la fin du culte aussi, on ne demande de pas rester là, on reprendra ça tout à l'heure. Et pourtant c'est quand même important qu'on puisse partager, et alors du coup je vous propose de continuer de poursuivre ce temps, et de partager avec Dieu, par la prière communautaire, un temps où ensemble on peut prier, que ce soit dans notre cœur intérieurement, que ce soit à haute voix, on va prendre un temps, comme ça on peut faire écho au message, et puis prier aussi les uns pour les autres, les uns avec les autres. Alors je vous laisse ce temps de silence et de prière libre, et on terminera avec deux chants après ce temps de prière. Voilà, je vous invite à prier, que ce soit dans votre cœur, à haute voix. Merci Seigneur de ces valeurs, de ces renversements de valeurs que tu nous proposes. Seigneur, que tu m'aides à pas chercher ce que le monde propose, mais à chercher justement tes valeurs, ton royaume dans ma vie. Aide-moi à le mettre en pratique, à le vivre. Seigneur, aide-moi à y être sensible, à y penser quand j'oublie et que je reprends les manières de fonctionner que le monde, des fois, nous pousse à prendre. Alors, Seigneur, que tu m'aides à me centrer sur toi. Amen.
Merci Seigneur pour ces paroles d'évangile qui sont tellement précieuses, qui nous mettent en route, en marche, qui nous invitent aussi à regarder vers toi, qui a incarné à perfection chacune de ces valeurs, en rendant possible pour nous un chemin à parcourir. Et je veux reconnaître humblement devant toi, il ne m'est pas naturel d'épouser ces valeurs-là, que j'ai besoin de toi et que j'aimerais faire plus et mieux dans ces valeurs importantes. Aujourd'hui, voilà, il y a des choses qui se redéfinissent. Aide-moi, aide-nous, Seigneur, à nous recentrer sur ce qui est essentiel. Merci. Ton accompagnement millimétré sur ce chemin-là. Dans le nom de Jésus. Amen.
Merci Seigneur pour les limites que l'on a. Les limites, ce n'est pas quelque chose de moche. Elles sont là, elles sont là pour tout à l'heure.
On va prendre deux chants. Le premier, c'est un chant d'Ortus qui dit « Change ». Alors, on connaît un peu moins bien, mais vous pouvez écouter les paroles. Et puis, on prendra après une autre partie de ce sermon sur la montagne, la prière du Notre Père, qui est incluse dans cette partie-là.
Cher et
sois sanctifié. Faites sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ce culte, on va terminer avec un temps encore d'annonce, même s'il y a peut-être un peu moins de choses. Et puis après, Sylvain, je te laisserai revenir pour la bénédiction.
Bonjour à tous. Alors, pas beaucoup d'annonces. Une première bonne nouvelle. Sylvie et Bertrand Barral sont grands-parents d'une petite fille, Léa, qui est née chez Hélène et Diego le 5 juillet. Sinon, le programme des cultes d'été continue sur le même format. Et puis, par contre, on a besoin d'aide, notamment le 26 juillet, pour ce qui est des désinfections et de l'accueil. Il faut encore 3 personnes. Et je crois qu'au niveau des présidences aussi, où tu as trouvé quelqu'un ? On est encore en recherche. Donc, n'hésitez pas à vous annoncer. Et puis, pour tout ce qui est désinfection à la fin du culte et aussi l'accueil, vous adressez à Anne Negrini, qui a besoin non seulement pour le 26 juillet, mais aussi durant tout l'été. N'hésitez pas à vous annoncer en la contactant directement. Et puis, si vous n'avez pas ses contacts, vous pouvez passer par soit les pasteurs, soit le conseil. Oui. Oui, après. Une petite note supplémentaire. Oui, dimanche prochain, le culte sera adapté aux enfants. En tout cas, comme dit Denise, kids compatible. Donc, n'hésitez pas à venir avec vos enfants. Ça fera une chouette petite histoire. Voilà. Et puis encore pour les offrandes, donc on remercie l'ensemble des membres, des donateurs de l'Église, parce que vous continuez à donner malgré cette situation un petit peu spéciale. On est reconnaissant au niveau du conseil et de l'équipe pastorale. On peut voir les comptes mois après mois, et puis la solidarité est toujours là au rendez-vous. C'est très agréable, c'est une situation sereine pour affronter l'avenir. On est très reconnaissant. Donc, à la suite du culte, vous avez toujours le moyen de mettre l'argent dans le panier ou avec le système Twint en scannant le QR code ou via le compte bancaire, le CCP, que vous trouvez sur le site Internet.
Alors, moi, je voulais juste faire un petit retour sur Merin-les-Bains, déjà pour remercier Claude d'avoir organisé tout ça. Remercier toutes les personnes de l'église qui étaient là pour aider à mettre en place, gérer le bar, et puis remercier aussi les jeunes qui étaient là. Bon, il n'y en a pas beaucoup ce matin, mais peut-être qu'ils nous regardent, on ne sait jamais. Mais j'espère que ça se fera aussi l'année prochaine. En tout cas, merci à tous ceux qui ont mis ça en place, c'était vraiment cool. On a pu voir le film Selma, qui était vraiment très touchant et actuel. Et du coup, moi je trouve que c'était vraiment très très cool de faire ça, et on espère qu'on fera ça aussi l'année prochaine.
Voilà, et je vous rappelle simplement qu'en sortant, après, on vous recommande vivement de ne pas rester ici pour les discussions. Alors, si elles sont entamées, les poursuivre en sortant, et sinon plutôt de les commencer dehors, si possible, pas de faire des petits tas. Il y a toute l'équipe de nettoyage, désinfection qui doit travailler, puis ça fait partie des mesures sanitaires qu'on a annoncées officiellement à la commune, etc. Donc, voilà, merci de respecter ça le mieux possible.
Voilà, donc rendez-vous encore ce soir pour ceux qui le souhaitent, pour le temps de partage à 6 heures, c'est ça? Je ne sais pas qui anime ce soir, et puis un pique-nique sur l'herbe après. Et puis, j'aimerais souhaiter bonnes vacances à Philippe et Heidi. Ils en ont grand besoin, ils partent demain matin à l'aube. Voilà. Pour 10 jours, 2 semaines ?
2 semaines.
2 semaines, c'est bien. Alors j'aimerais vous proposer comme bénédiction de lire juste ce que Jésus dit à ses disciples juste après le sermon sur la montagne. Il dit ça à des humbles disciples. Peut-être vous pouvez vous lever. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Bonne semaine et bonnes vacances.